Bonjour à tous. Plus ça va, plus je sais à quel point il est important de prier avant un message parce que il y a tellement de choses qui, enfin, de ramifications qui peuvent être possibles dans ce qu'on dit, les réalités que chacun met derrière les mots selon l'expérience, selon sa vie. On peut comprendre des choses totalement différentes. Et du coup, c'est tellement important que ce soit le Saint-Esprit qui nous parle et que voilà, quand la personne qui apporte le message soit guidée, bien sûr, mais que aussi ceux qui réceptionnent avec la sagesse et le discernement du Saint-Esprit. Parce que déjà, on peut faire des erreurs, on prie pour ne pas en faire, mais on peut. Mais aussi pour que chacun puisse recevoir ce que Dieu a pour lui et qu'il prenne aussi vraiment ce que Dieu veut. Je profite d'avoir le micro avant de commencer le message aussi pour mes parents, je pense pas qu'ils regardent tout de suite parce qu'en général quand ils vont en vacances, ils se trouvent toujours une église pour aller là-bas et je pense qu'ils sont dans l'église de Jacques Baudéré ce matin, mais en tout cas je pense qu'ils regarderont le culte après, donc voilà, je les salue bien et c'est l'anniversaire de mon papa aujourd'hui, donc je profite pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, voilà, et lui souhaiter vraiment plein de belles choses, la santé et lui dire que voilà, c'est un papa formidable et voilà, je voulais en profiter puisque j'ai le micro. Il y a une expression en anglais qui dit « audience of one ». En gros, c'est l'idée que quand on parle ou quand on fait la louange ou autre, peu importe qu'il y ait 3 personnes dans la salle ou 3 000 personnes, la personne pour qui on est là et on fait les choses, c'est le Seigneur. Et donc, voilà, j'apporte le message ce matin, la première personne dont je me soucie qu'elle va être satisfaite, que ça va lui plaire ou non, c'est le Seigneur. Alors j'espère que bien sûr au passage, ça va vous bénir, ça va être de bonnes choses pour vous, bien sûr, parce que j'ai prié dans ce sens-là. Mais voilà, vraiment, et c'est toujours un souci, je prends pas ça à la légère. À chaque fois, je le dis, je suis désolée, je fais mon petit aparté à chaque fois avant le message, mais je pense que c'est tellement important, on n'est pas digne d'apporter la parole de Dieu, mais il nous fait grâce, et je veux être toujours consciente de ça, que voilà, c'est un privilège, et je veux vraiment me remettre... dans les mains du Seigneur, dire que c'est pour lui que je suis là ce matin. Alors, on va commencer avec Matthieu 14, versets 6 et 7, qui dit « Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Alors, le titre de mon message, j'ai voulu faire un peu recherché, j'ai dit saisir la quintessence de la vie. C'est beau ça. Ou alors la puissance d'une vie centrée et concentrée. Alors, petite définition, la quintessence, c'est ce qu'il y a de plus raffiné en quelque chose, ce qui est l'essence même de quelque chose. Voilà, je vous dis ça au passage pour les adolescents, parce que bien évidemment, tous les adultes avaient la définition sur le bout des doigts. Alors, comme souvent, on prie avant de savoir ce que le Seigneur veut apporter. Et j'ai eu beaucoup de mal cette semaine. J'ai eu Edouard vendredi qui me demande bon, alors, c'est quoi le thème de ton message et tout. Je ne sais toujours pas. Donc, le Seigneur m'a parlé hier. Et en fait, je reprends un enseignement que j'avais reçu quand j'étais à l'école publique. Et alors, c'était par une personne qui s'appelle, alors j'avoue, je ne sais plus s'il était pasteur ou pas, qui s'appelle Ken Groen. Et voilà, j'ai eu à cœur de vous le partager. Alors, le titre en anglais, pour les anglophones, c'était « The Power of a Focused Life ». Donc, bon, je l'ai traduit à ma façon, mais c'est l'idée. Alors, ce message, à la base, du coup, il s'adressait pour des leaders, puisque j'étais dans la troisième année où ils formaient des leaders et des pasteurs. Mais en même temps, ça peut s'adresser à chacun d'entre nous. Ça s'adresse à chacun ici, déjà, parce qu'il y a pas mal de leaders parmi vous. Et aussi parce que chacun d'entre vous, tout le monde sans exception, a des leaders autour de soi. Et donc, ça peut vous aider à comprendre certaines choses ou même vous donner des axes de prière. Donc, il y en a pour tout le monde. Voilà. On veut, dans notre vie chrétienne, une plus grande clarté sur ce que Dieu a pour nous, une meilleure compréhension de ce qu'il veut pour notre vie. Il disait aussi le fait qu'il faut se prendre conscience du fait que Dieu, il est encore plus enthousiaste que vous et plus intéressé par le fait de réaliser, vous, votre potentiel, l'accomplissement de votre destinée. J'ai envie de dire que, quelque part, c'est lui le plus grand fan de votre vie. C'est le premier qui s'intéresse vraiment à tout et qui est là pour chaque moment. Et il faut pour ça aussi qu'on puisse, pour accomplir notre destinée, c'est aussi d'accorder le droit au Saint-Esprit de parler dans notre vie. On a vraiment besoin de son aide. Le Seigneur veut qu'on réalise le potentiel de notre vie quand nous sommes en lui, afin que nous soyons ceux qui aiment Dieu et qui aiment les autres. Qu'on soit ces personnes-là, de ceux qui aiment Dieu et qui aiment les autres, avec cet amour qui nous dépasse. Moi, plus ça va aussi, plus je me dis, mais en fait, j'aime pas les gens. Enfin, je vous aime. Hein. Mais je veux dire, de la façon dont Dieu veut qu'on aime les gens. On a tellement de progrès à faire sur ça, parce que nous, on aime souvent les gens avec un peu des conditions, etc. Il faut quand même, voilà. Alors, en tant que chrétien, on sait qu'on doit aimer nos ennemis, donc c'est facile d'aimer les gens qui nous aiment, qui sont sympas. On fait des efforts avec les gens qui le sont un peu moins. Mais au final, c'est pas ça que Dieu nous demande. Il nous demande vraiment de les aimer. Et ça, humainement, c'est pas possible. Ou ça a ses limites, soit dans le temps, soit dans la quantité. Mais on a vraiment besoin de l'amour de Dieu. Et bon, plus ça va, plus je me dis, Seigneur, j'ai vraiment, vraiment besoin de cet amour-là pour les autres. Et donc, voilà. Et quand on rentre dans ce que Dieu a pour nous, dans le potentiel qu'il a pour nous, etc., et qu'on lui laisse de plus en plus de place, on peut avoir cet amour pour les autres. Bon, c'est le travail de toute une vie, on est bien d'accord, mais c'est une réalité aussi. Donc, pour être passionné aussi de Jésus, pour avoir cet amour pour Dieu, pour les autres, pour être passionné de Jésus, il faut cette intimité avec lui. Alors, parmi les bonnes fondations de notre vie, on a besoin de l'intimité avec lui et de l'intégrité. L'intimité avec Dieu, c'est la clé pour maintenir notre passion et avoir la force de continuer. Sinon, ça va, on va vite tomber dans les habitudes, dans la religion, dans les choses qu'on fait comme ça, sans réfléchir. Mais voilà, l'intimité, voilà, vous le savez, que ce soit dans une relation de couple, dans une relation d'amitié, dans une relation, je sais pas, parent-enfant, enfin, ça s'entretient. C'est pas parce qu'on a un titre sur la relation que ça va durer dans le temps. C'est qu'il y a quelque chose qui se travaille, qui se maintient. Et voilà, avec Dieu, c'est le premier avec qui on a besoin de travailler ça. Après aussi, un autre point, c'est qu'en tant que leader, toutes les décisions qu'on prend vont avoir des répercussions sur la vie des autres. Je fais une petite aparté, que j'avais déjà prévue. c'est qu'il y a aussi un... qui qu'on soit, je ne sais pas si ça se dit bien comme ça, qui que nous soyons, quel que soit notre rôle dans la vie, quel que soit notre statut, tout ce que nous faisons et tout ce que nous disons, ça a des répercussions sur les autres, ça a des conséquences. Il y a la fameuse phrase qui dit « Ouais, mais je fais ce que je veux, c'est ma vie, ça ne regarde que moi ». C'est biaisé, cette phrase, parce que c'est qu'une seule partie de l'équation. Oui, c'est ta vie, c'est vrai. Tu peux prendre des décisions, mais ça ne regarde pas que toi, dans le sens où ça ne va pas avoir que des conséquences dans ta vie. Ça va avoir des conséquences dans la vie des autres, dans ta famille, avec tes amis, dans ton pays, si c'était le président. Enfin voilà, quoi qu'on fasse, ça a des conséquences. Si on jette une pierre dans l'eau, ça fera toujours des petits ronds. Alors, des grosses pierres, ça fera des gros ronds, des petites, ça fera des petits, mais il y en aura toujours. Ce ne sera pas sans aucune éclaboussure. Donc je mets ce petit bémol en disant attention, voilà, parce qu'on a cette société hein, qui nous encourage. C'est ma vie, fais ce que tu veux, ça ne te regarde que toi, après tout, c'est ton problème, c'est ta vie. Oui, mais non. Parce qu'autour de toi, il y a des gens que tu peux faire souffrir, que tu peux abîmer. Donc voilà, ça ne regardera pas que toi, il va y avoir des conséquences sur les autres. Donc c'était ma petite aparté. Juste, retournons à notre sujet. En tant que leader, voilà, en plus encore, en tant que leader, nos décisions ne sont pas anodines. Comme Jésus, on est appelé à faire ce que le Père fait, à apprendre à écouter sa voix. On n'est pas toujours très compétent ou utile pour le royaume de Dieu tant qu'on n'est pas brisé. Alors, brisé au sens biblique, on entend. Il ne s'agit pas de moi et de ce que moi je peux faire pour l'Église ou pour les autres. Ce n'est pas moi le centre. On découvre aussi que nos dons, on découvre nos dons alors que l'on sert. C'est en faisant, c'est en étant fidèle dans les petites choses que Dieu nous montre. On sera alors dans les plus grandes. Et on va découvrir aussi les dons au fur et à mesure qu'on peut mettre au service des autres, qu'on peut faire grandir dans notre vie. On a des choses dans notre destinée, où les dons vont être là et vont nous aider, vont aider les autres. Quand on choisit la voie, enfin parfois on ne la choisit pas toujours, la voie du leadership, hein, parfois c'est plutôt Dieu qui nous la donne, et on l'accepte. Mais quand on accepte cette position, on s'engage pour un chemin qui est difficile. C'est pas tout facile d'avoir ce genre de rôle-là. Mais à travers ça aussi, Dieu veut continuer de purifier nos vies, afin que l'on voit toujours plus Christ à travers nous. Aussi, quand on suit Jésus, là, c'est pas que les leaders, c'est tout le monde, on est appelé à être prêt à mourir pour Jésus. Mais c'est pas juste mourir, perdre sa vie, mourir au sens clinique du terme, mais ça peut se traduire aussi, le mot fait de mourir, abandonner ses ambitions, abandonner le confort du matérialisme, abandonner certaines idées de carrière, certaines idées de je vais vivre dans tel pays ou je vais faire telle chose. Enfin, parfois, ça peut être aussi ça. Et ça aussi, c'est prêt à mourir soi-même pour abandonner ses voies et suivre celle du Christ. Et donc, j'agrémente ça avec deux versets, enfin deux passages. Donc, dans Jacques 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi, produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc ce verset, pour parler que voilà, on aura des épreuves, c'est pas une surprise, c'est pas anodin, c'est voilà, il y en aura, mais ça nous fait grandir dans notre foi et dans notre vie. Philippiens 3, versets 7 à 11. Donc c'est Paul qui parle. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de toute la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Très clair comme passage. J'aime beaucoup le verset 11. Afin de connaître Christ et la puissance de sa réaction. Moi, je trouve ça, c'est un verset qui m'a particulièrement parlé une année. Le Seigneur a vraiment mis ça sur mon cœur. C'est très très fort. Connaître Christ, déjà, c'est quelque chose d'énorme. Et la puissance de sa résurrection, la résurrection qui a donné la vie, qui a transformé Jésus. Mais parfois, j'ai peut-être un peu fait. J'ai peut-être un peu oublié juste la phrase juste après. Et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui. Et ouais, c'est un package. On peut pas. C'est pas juste la baguette magique où tout est super et on connaît la puissance de la résurrection. On a aussi les souffrances avec. Alors, j'avais fait un petit message sur la souffrance l'année dernière. Donc, je vous renvoie à ce message. Non, l'idée, c'est, on revient pas. Je fais juste une aparté encore. C'est pas, on souffre pas pour souffrir. C'est pas un but en soi. C'est pas ça qui va nous faire grandir dans la foi. Enfin, qui va nous faire grandir par rapport à Dieu, etc. C'est pas recherché. C'est que ça va arriver, la souffrance. C'est qu'il y en aura. Il y aura des choses difficiles. Chacun d'entre vous, vous avez tous vécu des choses difficiles dans votre vie. Vous avez souffert. Et donc, voilà. C'est juste important de se souvenir que c'est une réalité. C'est pas quelque chose qu'on va rechercher, ça va arriver. Donc le recherchez pas. Mais c'est le vivre aussi avec Christ. Donc voilà, on va avoir des choses qui vont être peut-être un peu difficiles, mais aussi en même temps, ces choses qui sont difficiles, cette pression, ça va aussi révéler qui on est. Parfois on sait pas bien qui on est, ce qu'on croit vraiment, tant que la pression n'est pas arrivée. Alors chaque image a ses limites, mais moi j'aimais bien, on disait, tant qu'on n'appuie pas sur le tube de dentifrice, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Bon, a priori, il y a du dentifrice. Mais bon, c'est l'idée, c'est que ça sort à ce moment-là, quand on appuie dessus. Et voilà, dans nos vies, c'est dans les moments un peu de crise, de difficulté, où on voit vraiment en quoi je crois, quelles sont finalement mes vraies convictions, mes valeurs, qu'est-ce que je vaux quelque part, par rapport à ce que je peux dire de ma vie, dans ces moments-là, qu'est-ce qui se passe ? Cette pression, elle révèle notre cœur, notre attitude, comment on réagit, comment on avance, notre niveau de maturité, notre niveau de compréhension des choses de Dieu aussi. Et aussi, souvent, malheureusement, on attend un peu trop, mais c'est aussi quand je suis désespérée que je m'attends à Dieu. Donc, du coup, on dépend de lui. Alors, on va parler de certaines choses, voilà, certains éléments le processus que Dieu parfois met en place dans notre vie pour nous faire grandir dans ces moments-là, pour révéler les choses. Alors, il y a un peu deux catégories, entre guillemets, il y a les choses qui arrivent régulièrement dans notre vie. Alors, il y a. Je ne suis pas tout à fait contente de mes sous-titres, on va dire, mais bon, vous allez me faire grâce. Donc, je parle du test de l'intégrité. Alors, c'est un test. Alors, quand on dit test, c'est pas forcément Dieu nous teste pour savoir où on en est. C'est pas tant pour lui que pour nous. Parce que lui, il sait très bien où on en est. Lui, il voit notre cœur, il sait très bien. Mais nous, on a besoin, justement, de réaliser. On se croit des fois au top. Et puis, tout d'un coup, on s'aperçoit. Ah ben non, j'avais un petit truc là dans mon cœur qui était pas tout à fait juste. Donc, ces tests sont pour nous et voir où on est dans notre niveau d'intégrité. Alors, l'exemple qui est donné, qui est assez facile à comprendre, c'est Joseph et la femme de Potiphar. Quand la femme de Potiphar a essayé de séduire Joseph, Joseph a refusé et il s'est enfui pour éviter de commettre un adultère. La raison pour laquelle il a pas commis cet adultère, c'était pas par peur d'être pris sur le fait ou d'être pris en faute, mais c'est parce qu'il savait que ce serait un péché envers Dieu. Et du coup, il a été cohérent avec cette valeur. Donc il a agi non pas par peur d'être pris, mais parce qu'il ne voulait pas pécher contre Dieu. Et du coup, il a mis cette valeur en action. Je ne veux pas pécher contre Dieu, donc je vais fuir cette situation. C'était la seule solution. Il y avait pas de. On dit, faut pas fuir des fois les problèmes. Mais là, c'était pas le sujet. Là, il faut fuir ce genre de soucis-là. On s'en va. On commence pas à mettre le doigt dedans, parce que sinon, c'est fini. Donc voilà, Joseph avait cette valeur qu'il a vraiment mis en pratique dans sa vie. Donc nous aussi, à nous de voir ça dans nos vies, quand on a eu ce genre de choses. Comment est-ce qu'on a réagi? Et après, bien sûr, il y a aussi la grâce qui est là quand Dieu nous dit dans 1 Jean 1,9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Voilà, Dieu pardonne, bien sûr. Et à nous de nous relever et de dire « Bon, voilà, j'en suis là, finalement. Je pensais que ça, c'était une valeur qui était dans ma vie, que l'intégrité était bonne. Bon, bah, va peut-être falloir continuer à travailler, Seigneur, fais grâce et continuer à avancer. » Voilà, c'est pas juste pour dire « Oh là là, t'es trop nul. » Mais non, c'est dire « Bah, j'en suis là. » Et à partir de là, je peux avancer. Un autre test, c'est de la parole de Dieu. Alors, 95%, là, j'ai envie de dire chiffre non contractuel, hein, c'est juste pour vous donner une idée de grandeur, de ce qu'il faut savoir pour vivre une vie fidèle à Dieu est dans la parole, dans la Bible. Le reste est une révélation personnelle qui est en accord avec la parole de Dieu. Et bien sûr, le Saint-Esprit nous la révèle. Alors, c'est juste pour donner une idée que faire qu'il y a des choses, effectivement, parfois on dit, c'est pas exactement écrit noir sur blanc sur la Bible, dans la Bible. Mais il y a tout ce qui. Bien sûr, la Bible nous donne toutes les grandes directions et c'est Dieu parfois nous révèle des choses plus précises. Effectivement, hein, c'est pas écrit à toi, telle personne, tu vas aller vivre dans telle ville ou autre, etc. Donc, ça, c'est des choses que Dieu nous révèle à travers son esprit, mais c'est aussi en accord avec ce que nous dit la parole de Dieu. Donc voilà, toujours, est-ce que je reviens toujours à la parole de Dieu pour les décisions dans ma vie? Est-ce que je reviens par rapport à des problèmes? Est-ce que c'est vraiment ma fondation? Alors le contact divin dans le fait que Dieu est là dans nos vies, il est là dans toutes les situations, même quand on ne le voit pas. Et pour ça, j'utilise l'image, j'aime beaucoup cette image de la tapisserie. Alors parfois, elle nous parle un peu moins, parce qu'aujourd'hui, la tapisserie, on n'en voit pas tous les 4 matins, mais on sait à peu près ce que c'est. Et en fait, j'ai toujours aimé cette histoire que quand on regarde derrière une tapisserie, ça ressemble à rien. Il y a des fils dans tous les sens, les couleurs, ils se chevauchent, ils se superposent. On ne voit pas d'image, c'est pas très très clair. C'est un peu le chaos. Et puis quand on retourne et qu'on fait face à la tapisserie, là, c'est beau, c'est ordonné, c'est cohérent. Les couleurs ont tout leur sens. Pourquoi est-ce que celle-ci, elle se croise avec celle-ci? Et voilà. Mais parfois, dans nos vies, c'est ça, Seigneur, mais ma vie, là, elle ressemble à rien, ce qui s'est passé ces derniers temps, je comprends pas et tout. Et puis, paf, on prend un peu de recul et Dieu nous montre, ah ouais, je comprends pourquoi j'ai rencontré telle personne ou pourquoi j'ai vécu telle chose, etc. Voilà, Dieu est dans nos situations. Et à nous aussi de faire confiance et d'être dans la foi qu'il agit dans nos vies. Aussi par rapport à nos dons. Alors, dans Paul, il encourage Timothée à ne pas négliger les dons. Et bien sûr, on peut le prendre aussi pour nous. On découvre nos dons alors que l'on sert et qu'on se met en mouvement. Et souvent, le fait de découvrir nos dons, ça s'accompagne de joie. Voilà. Quand on fait quelque chose, aussi anodin soit-il, même si on le fait dans la joie, ça a une confirmation aussi que tiens, là, j'ai un don sur ça. Il y a une image aussi, c'est un peu comme la marche. Un enfant qui commence à marcher, il commence à 4 pattes, puis il se lève, il fait quelques pas, il tombe, il recommence. Et jusqu'à ce qu'il soit en parfait équilibre et qu'un jour il puisse même courir. Nos dons, c'est un peu ça au début. On ne va pas tout de suite, je ne sais pas si bon, l'image facile, c'est le musicien, il ne va pas tout de suite prendre une guitare et gratter et puis être hyper top. Voilà. Ça, il va tenter, il va travailler, etc. Après, il y a d'autres dons, hein. Il y a l'encouragement. Parfois, on peut avoir un don d'encouragement. Et puis au début, on peut balbutier, on n'est pas forcément à la hype. Mais il y a des centaines de dons. Mais c'est aussi essayer, les mettre en pratique et les découvrir au fur et à mesure. Pas attendre que ça nous tombe dessus. Parfois, ça peut arriver. Ça peut, hein, je ne dis pas, mais Dieu fait toujours comme il veut, donc ça peut être différent. Mais en tout cas, voilà, j'encourage, nous encourage aussi à être ça. C'est alors qu'on est en mouvement qu'on peut découvrir aussi les dons. Les choses qui nous font aussi avancer, c'est les défis de la foi. En tant que chrétien, voilà, c'est crucial pour nous de vivre cette vie, cette foi dynamique et vivante. Pas juste une idée, mais vraiment que ce soit dans le concret. Voir les choses à venir, ça demande de la foi, au final. Quelque part, de croire qu'il y a demain, c'est une forme, enfin, il y a de la foi. la foi que demain, le soleil va venir, que je vais être encore en vie. Voilà. Enfin, il y a une part de foi dans beaucoup de choses. Alors, bien sûr, l'exemple un peu frappant, c'est Abraham, hein, qui a quitté son pays par la foi et par obéissance. Et là, c'était quand même un sacré test de foi qu'il a réalisé. Il avait un attachement à Dieu assez ouf, j'ai envie de dire, si vous me permettez l'expression. C'est vraiment, tu quittes tout ce que tu connais, toutes tes habitudes, et t'y vas parce que Dieu te l'a montré. Et ça, c'était la foi. Et aussi, il y a le fait que Dieu nous révèle certaines choses de notre destinée. Dans Acte 9, Paul, il a été choisi pour prêcher aux païens. Et il lui sera aussi montré qu'il souffrira. Le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Voilà, Dieu lui avait montré à quoi il serait appelé, qu'il y aurait, encore une fois, là, des choses où ça va être difficile. Mais que c'était pour le nom de Dieu. Et bon, alors voilà, on n'a pas tous la destinée de Paul, hein. Mais Dieu, il nous révèle des choses, alors différemment, ça peut être directement, ça peut être à travers d'autres personnes ou de circonstances. Je me faisais aussi une réflexion personnelle il n'y a pas longtemps, en me disant, mais enfin, quand même, c'est dommage que, pourquoi on n'a pas plus de conversion, pourquoi il n'y a pas plus de chrétiens, pourquoi est-ce que c'est si difficile, on espérait, on voit les, voilà, on comme beaucoup, enfin voilà, on est dans l'Église depuis longtemps, l'Église avec un grand E. Hein, ouais, Seigneur, franchement, ouais, j'aimerais voir quand même plus de monde venir, etc. Et voilà, avec tout ce qui est accessible, le travail qui a été fait par le passé, quand on regarde l'histoire, il y a tellement de choses qui ont été faites, la Bible qui est accessible partout. Et puis, finalement, je me suis rappelé, Jésus m'a rappelé ces paroles, hein, qui dit que le chemin, il est étroit, et qu'on serait persécuté aussi pour notre foi. Alors, dans Matthieu 7, verset 13, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. » Jésus nous a bien prévenus à ce moment-là, de nous dire, voilà, la porte, elle est là, mais elle est étroite, et c'est pas le plus grand nombre qui va venir. Alors, le cœur de Dieu, bien sûr, c'est que tous soient sauvés, c'est que tous viennent à lui. Mais voilà, tous ont le choix et tous ne choisissent pas, parce que la porte large, c'est plus facile que la porte étroite. Par rapport au fait aussi qu'on serait persécuté notre foi, alors je remets ça en perspective, bien sûr, en France, on a quand même beaucoup de liberté, bon, c'est un petit démesuré pour nous un peu de parler de persécution, enfin, il peut y en avoir peut-être en France, mais en tout cas nous, je pense pas. Mais par contre, c'est vrai que quand on voit nos amis, des membres de notre famille, des collègues, des gens qu'on aime autour de nous, qui ne viennent pas à Dieu. Ça, c'est une souffrance aussi. C'est difficile de se dire que ces gens-là t'aimeraient tellement qu'ils puissent connaître Dieu, qu'ils puissent partager ce qu'on connaît de Dieu, le peu qu'on connaît de Dieu, qu'ils puissent avoir cette aide dans les moments de difficulté. On aimerait qu'ils connaissent ça et qu'ils rentrent dans ce plan-là. Et c'est aussi difficile. C'est difficile de voir ces gens et qu'on est... nous, on est fidèles dans le témoignage, mais... C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement, et chacun est libre d'accepter ou de refuser de rentrer par cette porte. Donc voilà, c'est juste une petite réflexion que je me faisais en me disant, oui, c'est vrai. La porte est là, mais elle est étroite. Alors, il y a des choses qui arrivent un peu moins régulièrement dans notre vie, mais qui nous font aussi réfléchir. C'est par exemple quand on est face quand on a un problème par rapport à l'autorité. Comment, où en sommes-nous? Comment je réagis quand il y a un souci, quelque chose qui me contrarie par rapport à l'autorité, ou que ce soit le travail, les parents, on a toujours l'autorité autour de nous. Parce qu'il est vraiment important de comprendre l'autorité dans le royaume de Dieu. Tout comme David, qui a refusé à plusieurs reprises de tuer Saül, car il était loin de Dieu, malgré tout ce qu'il lui avait fait subir. Alors, je n'ai pas besoin de beaucoup développer, puisqu'on a eu les mois de la famille sur David... Et ce qu'il a vécu à ce moment-là, mais c'est vrai que c'est tellement important. Et alors que pourtant, franchement, quelque part, on aurait envie de le justifier. Vas-y, David, là, il nous a vraiment fait suer. En plus, Saül s'est tellement détourné du plan de Dieu. Vas-y, tu peux le supprimer. Mais non. David a dit non, c'est loin de Dieu. Qui suis-je pour m'opposer à ce que le Seigneur a mis en place? Et du coup, ça montrait bien aussi le cœur de David par rapport à Dieu. Et ça, c'est important, nous. Parfois, on a, voilà, en plus en tant que Français, on a un peu la rébellion dans le sang. Et c'est important de déposer ça, parce qu'on est d'abord citoyen du royaume de Dieu avant d'être Français. Même si, voilà, j'aime beaucoup la France. Mais je suis d'abord, voilà. Et ça, c'est important. Et l'autorité, du coup, on a besoin, de travailler ça, tous. Il y a toujours un moment où, voilà, on a des difficultés par rapport à ça, mais je pense que c'est important de regarder comment on réagit dans ces situations-là, pour voir comment est-ce que Dieu peut nous aider à travailler ça. Alors, il y a les crises de la vie. Là, on en a toute une panoplie. Bon, là, l'exemple que je prends, c'est un peu le plus extrême, puisque je prends Job. Job, il a tout perdu. Et malgré tout, au moment, il est capable de déclarer quand même, c'était au tout début, dans Job 2, « Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne péchait point par ses lèvres. » Voilà. Donc, c'est juste pour dire que dans chaque situation de la vie, il y a des crises, on apprend des choses. Et Dieu est toujours avec nous et il restaure les choses. Même si, sur le coup, encore une fois, si on revient à tout à l'heure, on ne comprend pas les choses qui se sont passées, pourquoi ça s'est passé. Dieu est là et Dieu restaure. Et Dieu aide et Dieu accompagne. Donc, dans chaque moment de la vie, chaque difficulté, on peut voir aussi ce que Dieu peut nous, comment Dieu peut nous faire avancer. Et alors après, il y a aussi une autre, c'est parfois les conflits quand on est dans le ministère. Par exemple, il y avait Paul qui était un planteur d'église, Barnabas qui plutôt était dans la formation des leaders. Il y a eu des frictions entre eux, mais ils se sont quand même, voilà, ils ont réglé le problème, j'ai envie de dire. Il y a la Bible qui nous encourage à être en paix avec tous tant que cela est possible. Mais en tant que leader, des fois, il y a des temps dans lesquels Dieu nous révélera des choses très clairement et pour lesquels on devra se positionner et tenir. Et ça, c'est pas facile. Et là, c'est là aussi qu'on voit, est-ce que j'obéis à Dieu ou j'obéis à l'homme ? Est-ce que je cherche à faire plaisir à l'homme ou à Dieu ? Et ça, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Il y a d'autres moments où Dieu va regarder notre obéissance. D'autres fois, ça va être des moments où il va nous demander de nous mettre à part pour vraiment l'écouter. Voilà, enfin, il y a plein de façons, hein, ce ne sont que quelques exemples de comment est-ce que Dieu peut nous parler, peut nous faire travailler dans nos vies. Donc ces épreuves qui sont dans qu'on vit, elles nous font grandir, mais ça peut aussi soit nous éloigner, soit nous rapprocher de Dieu. C'est à nous d'accepter ce que Dieu fait dans nos vies et de nous laisser transformer. J'aime bien aussi cette image. Soit on choisit d'être le beurre qui fond au soleil, ou on est comme l'argile qui va s'endurcir. Est-ce que quand Dieu fait quelque chose dans ma vie et qu'il fait briller son soleil sur ma vie et que des fois c'est un peu chaud, est-ce que je vais m'endurcir et je vais rester dans mes voies et je vais pas vouloir changer? Ou est-ce que je vais plutôt être comme ce beurre qui accepte de fondre et qui va prendre ce que Dieu lui montre et accepter d'être transformé? C'est pas simple, hein, mais voilà, que Dieu nous donne ce cœur aussi, où on puisse dans ces moments-là accepter de changer et d'être transformé. Donc tout ça, ça nous amène à nous recentrer du coup, enfin, si on le choisit en tout cas, de nous recentrer sur Dieu. Et voilà, du coup, donc, comme je disais, hein, c'est un enseignement que j'avais reçu là-bas, et il nous avait donné un petit travail à faire, j'ai envie de dire, et donc je vais vous donner les quelques clés, s'il y en a que ça intéresse, mais ça peut faire réfléchir. Donc, pour se recentrer, il faut savoir examiner son passé. Il faut pouvoir rendre clair son futur, identifier les ressources qui vont aussi faciliter notre croissance et notre développement. Alors, je crois qu'il y a 4 étapes qu'il propose. La première étape, c'est de prendre le temps pour écrire une sorte de chronologie de vie. Ça permet de se mettre en perspective. Donc cet exercice-là, alors chronologie de vie, hein, c'est les grands moments qui ont été clés dans notre vie. L'exercice nous rappelle que qui nous sommes est plus important que ce que nous faisons aussi. C'est un exercice qui demande du temps. C'est plus facile si vous avez un peu fait si vous avez écrit un peu des journaux dans votre vie pour mettre les moments importants. Mais sinon, vous pouvez aussi le faire en réfléchissant et en identifiant les étapes clés, les incidents majeurs de votre vie. Et voilà, on peut identifier les différentes phases. Ça permet un peu de regarder, voilà, ce qui s'est passé dans le passé, les choses où aussi Dieu est intervenu et comment est-ce que moi j'ai réussi, les grandes phases, hein, bien évidemment. Donc ça, c'est la première étape, c'est écrire ça. La deuxième, c'est de développer nos valeurs. Donc les valeurs, ce sont les convictions qui participent à nous guider dans la vie, dans le ministère, dans le quotidien. Voilà, les choses dans lesquelles on croit. Elles décrivent aussi notre expérience personnelle et les hypothèses que nous avons sur la vie et sur le ministère. Alors, expliquer que les valeurs, c'est le résultat de trois domaines de réflexion. C'est la connaissance de notre caractère, la connaissance du ministère et l'expérience de vie et de notre éducation. Voilà, là, ça peut être peut-être plus exhaustif, hein, mais je vous donne celle-ci. Ce qu'on fait, c'est ce à quoi on donne de la valeur. Je pensais au verset qui dit là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc voilà, les choses auxquelles on donne de l'importance, les choses auxquelles on va donner de la priorité. Donc là, par exemple, il nous demandait d'identifier 6 à 10 valeurs et expliquer pourquoi ces valeurs-là. Donc voilà, si c'est un travail que vous voulez faire, je vous y invite aussi. La 13e étape, c'est de décrire votre but, votre raison d'être, selon la Bible d'abord. Donc par exemple, la première étape que Dieu nous donne par rapport à la Bible, c'est simplement d'être un croyant déjà. C'est la première étape. Et après, toutes les autres choses. Donc là, on est invité à utiliser les versets que Dieu a utilisés dans nos vies, dans notre vie pour nous guider. Par exemple, moi, que je vous ai dit tout à l'heure, il y a le verset voilà, que le Seigneur, qu'on puisse connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Voilà, c'est un verset qui, une année, m'a parlé particulièrement et je peux détailler pourquoi. Donc voilà, ça, c'est des choses un peu ce qui nous dit voilà, notre raison d'être par rapport à la Bible. Ensuite, la 4e étape. Oui, pardon, j'ai oublié cette petite phrase. Donc voilà, chercher des versets qui parlent de pourquoi nous avons été créés et les méditer. Et en fait, la 4e étape, c'est votre vision personnelle, votre appel. À quoi Dieu vous appelle? À quel accomplissement? Quelles sont vos passions? On revient tout à l'heure, on a parlé des dons. Quelles sont les choses voilà, qui sont importantes, qui sont clés? Donc voilà, j'aurais dit en grand, la première étape, c'est écrire sa chronologie de vie. Deuxième étape, développer nos valeurs. Troisième, quelle est notre raison d'être selon la Bible? Quatrième, quelle est ma vision personnelle, mon appel? Et aussi d'être accompagné. Parce que parfois, ce n'est pas des choses qu'on peut faire tout seul. Enfin, souvent, voilà. On est appelé à avoir des gens de confiance autour de nous qui peuvent aussi nous aider, nous tirer vers le haut. Pas forcément nous caresser dans le sens du poil. Parce que ça ne nous fait pas forcément avancer. Enfin, ça ne nous fait pas avancer. Ça peut faire du bien sur le coup, mais voilà. Quelqu'un qui peut te dire, écoute là, attention, tu es un peu trop près de la falaise, tu risques de tomber. Ça, c'est de l'amitié. De laisser la personne, de regarder loin, tiens, il est près de la falaise, il risque de tomber, mais je ne vais pas lui dire. Parce que bon, ce serait un peu... je vais me mêler de ce qui ne me regarde pas. Voilà, quand on aime les gens, on leur dit s'il y a un danger. Après, voilà, chacun peut réagir différemment, prendre, mais on sait que ces gens-là qui nous disent ça nous aiment. Ce n'est pas forcément agréable sur le coup à entendre, mais on sait que c'est important. Et donc, on a besoin de ces gens-là dans nos vies. Donc voilà, pour résumer un peu ce que j'ai pu partager aujourd'hui, en quelques bullet points, la première chose, c'est de garder notre relation avec Dieu en premier. Priorité number one, c'est Christ. C'est cette intimité que je peux développer avec lui. C'est toujours s'assurer, parce que je pense que dans la vie, on peut être vite submergé plein de choses. Il y a tellement de choses qui peuvent être là, je pense... non, je pense pas, j'ai pas besoin. Vous avez des milliers d'exemples qui font que dans la vie, on peut avoir plein de choses qui viennent se rajouter. On a des montagnes de choses à faire, à penser, à faire, etc. Mais voilà, mais toujours s'assurer. Regardez, alors, je pense que les chiffres d'après, ils peuvent un peu varier, mais que le numéro un, ce soit toujours Christ. Et vous inquiétez pas, je me le dis à moi aussi, en première d'ailleurs, parce que j'ai besoin de toujours vérifier est-ce que Christ est bien en premier dans ma vie. Deuxième chose, prenez des temps de renouvellement. On ne peut pas toujours carburer à 100 à l'heure, sans arrêt. On fait beaucoup en ce moment dans les entreprises, les burn-out. On ne peut pas être... on a besoin de temps, de renouvellement, où Dieu nous parle. Alors parfois, avec Dieu, il nous fait grâce. Parfois, c'est alors qu'on court, il y a un verset, alors qu'on court, il renouvelle nos forces. Mais il faut savoir aller chercher ce renouvellement en Dieu. C'est pas forcément prendre 3 mois de vacances aux Bahamas. Enfin, d'ailleurs, si on peut, c'est cool, mais voilà, tout le monde ne peut pas. Mais voilà, c'est pas forcément ça, c'est le renouvellement, vraiment, se laisser renouveler par Dieu. Et nous montrer, parfois, il va nous dire, prends des vacances, vas-y, pause tout un mois, prends des vacances, voilà. Mais parfois, on va dire, tu continues de courir, mais tu viens chercher en moi les forces dont tu as besoin. Et c'est pour ça qu'on a toujours besoin d'être à l'écoute, et c'est pas une recette qu'on peut suivre comme ça, vous faites ça, point A, point B, point C. Non, c'est qu'on est à l'écoute de ce que le Saint-Esprit nous dit, on est à l'écoute de ce que Dieu nous dit. Et ça va être différent, et on peut pas appliquer la même chose. Dire, ah, la dernière fois, j'ai pris... j'ai fait une retraite dans un truc, ça m'a fait tellement de bien, je vais recommencer. Si c'est pas ce que Dieu vous montre, ça va pas forcément vous renouveler. Et c'est pour ça faut toujours être, et c'est pas forcément simple, parce que c'est beaucoup plus facile de se baser sur une expérience qui a bien marché en plus. Mais voilà, Dieu nous demande d'être toujours à son écoute, et on va être renouvelé de façon différente. Mais en tout cas, il faut s'étendre au renouvellement. La troisième chose, c'est de rester dans une dynamique d'apprentissage. Toujours être prêt à apprendre. Et ça, c'est tellement important, parce que on a beau être dans l'Église depuis 50 ans, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Déjà sur la vie, d'une manière générale, mais après sur Dieu. Et je voyais un petit, je sais pas, sur Facebook hier, un petit dessin. C'était un gros camembert. Donc il y avait une petite qui disait « ce que je sais ». Une autre qui était un peu plus grosse qui disait « ce que je sais que je ne sais pas ». Et puis tout le reste, « ce que je ne sais pas que je ne sais pas ». C'est un peu ça. Il y a tellement de choses qu'on ne sait même pas qu'on ne sait pas. Et du coup, bah, dans la vie, on est toujours appelé à continuer d'apprendre. Il y a toujours tellement de choses à savoir. Donc, cette dynamique d'apprentissage. Ensuite, c'est le quatrième point. C'est de garder en vue votre appel. Du coup, ça donne un peu une ligne directrice. Quel est l'appel sur ma vie ? Moi, par exemple, je vous donne mon exemple comme ça, je ne me trompe pas. Moi, je sais que Dieu m'a vraiment appelé en France. J'ai pas mal voyagé. Mes parents ont été vraiment encourageants à dire... tu peux voyager, vas-y, profite. Et donc, pendant 2 mois, j'avais été en Écosse, je trouvais ça sympa. Et j'ai été 2 ans à l'école biblique aux États-Unis. Et forcément, c'est tentant, c'est tellement plus facile là-bas de parler de Dieu. Enfin, il y a plein de choses qui sont top, quoi. Mais vraiment, Dieu m'avait vraiment montré clairement que moi, mon appel, c'était pour la France. Et j'aime la France. J'aimais et j'aime toujours la France. Et les Français. Et voilà, j'aime mon pays. Et Dieu m'a appelé à ça. Et donc, du coup, c'était une ligne directrice pour moi de dire, bah oui, j'ai une super expérience aux États-Unis. Je suis très reconnaissante. CFNI, pour moi, c'était vraiment top. Mais voilà, mon appel, elle est pour la France. Donc, je reviens en France. Et je vais pas rester là-bas parce que... Voilà, donc c'est juste pour donner un exemple. Hein, je veux pas me mettre en avant. C'est juste pour donner un exemple de... Voilà, c'est ça aussi, garder en vue son appel. C'est agir en conséquence. Donc du coup, parce que si j'avais su que Dieu m'appelait à être en France, je me dis, ouais, non, c'est pas grave, moi, je vais aller un peu vivre, je sais pas, en Ukraine, c'est sympa. Finalement, c'est moins cher là-bas, j'en sais rien. Voilà, j'aurais pas été cohérente avec ce que Dieu m'a montré. Donc du coup, ça peut être parfois, quand on se pose des questions sur « Mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire là ?» Bah, parfois, on a déjà la réponse. Déjà, bon, il y a la Bible, et puis il y a ce que Dieu nous a montré clairement. Moi, pour moi, c'était clair, je pense, depuis la fac, je pense que j'avais vraiment la France sur mon cœur. Donc voilà, ça aurait pas été cohérent pour moi de faire différemment, parce que Dieu m'a montré ça. Même s'il y a plein de choses magnifiques, et j'aime beaucoup voyager, mais voilà, je suis appelée là. Donc ça, voilà, ça peut nous aider parfois à prendre des décisions. Donc là, c'est un exemple assez facile. Maintenant, ça peut être, je ne sais pas, j'ai été appelée à travailler avec les enfants, j'ai été appelée à faire de la musique dans la rue, j'en sais rien, il y a plein de choses. Hein. Mais c'est pour donner un... Et la dernière chose, c'est un peu ce que j'ai dit juste avant, c'est d'être... il faut tout savoir être redevable. Avoir des gens de confiance à vos côtés pour vous accompagner, pour vous tirer vers le haut. C'est pas... On parle de mentors aussi, d'avoir des mentors dans nos vies. Alors les mentors, c'est pas un remplacement de Jésus hein, dans notre vie. C'est des gens pour lesquels on admire certaines choses pour eux et on voudrait atteindre le même niveau d'une certaine manière. Et on va un peu chercher ces gens pour dire voilà moi, ça dans ta vie entre guillemets je le veux. Alors l'idée c'est pas de lui voler, c'est d'apprendre de cette personne. Donc là on retrouve et en même temps l'apprentissage et en même temps la redevabilité. Moi par exemple, on avait eu cet exercice dans ma troisième année, on devait trouver un ou deux mentors pour l'année. Et il nous avait expliqué le principe. Et effectivement, j'avais été chercher. Son mari était responsable de jeunesse et elle l'aidait. Et elle était aussi maman de 3 enfants. Et moi, je voulais apprendre d'elle cet équilibre. Comment est-ce que tu fais pour gérer tes enfants, pour gérer ton ministère, pour accompagner ton mari aussi? Et voilà. Et c'était ça. Et elle avait plein d'autres choses super dans sa vie, mais c'était ça que j'étais allée chercher chez elle. Et voilà, chercher comment tu fais, comment voilà. Donc on avait passé du temps ensemble. Et ça peut être d'autres choses. Ça peut être quelqu'un qui je sais pas, que, par rapport à sa vie de prière, ça peut être quelqu'un qui gère super bien l'équilibre vie professionnelle, vie du ministère, vie familiale. Enfin, il y a tellement de choses, mais voilà, c'est pas forcément... parce que vous trouverez pas la personne qui est parfaite dans tout point, à part Mary Poppins, non, je rigole, la personne qui est parfaite dans tout point. Et de manière, et si vous pensez l'avoir trouvée, vous allez la mettre sur un piédestal, et dès que vous allez voir les défauts qu'elle a, paf, elle va tomber, et puis du coup, vous n'aurez plus entendu parler de cette personne. Ou alors, elle va être remise... Voilà. Et c'est dommage, parce que du coup, vous n'allez pas apprendre ce que vous auriez pu apprendre à elle. Donc voilà, ça, c'est important. Et bon, c'est vrai qu'en tant qu'humain, on a toujours cette envie d'aller chercher quelqu'un, le super-héros. Il y en a tellement des films sur ça. Mais voilà, mais c'est important quand même d'avoir ces gens-là vers qui on peut regarder et chercher à apprendre de ces personnes. Mais les laisser à leur place, ils sont à côté de vous. Peut-être un peu plus loin sur le chemin par rapport à Christ ou d'autres choses. Mais voilà, et vous pouvez apprendre de ces personnes. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, je trouve, qui est riche. Voilà. Et encore une fois, ça peut être dans un temps défini. Vous savez, voilà, bah, je suis désolée, je parle de moi parce que je connais ma vie. Mais voilà, ça peut être pour un temps défini. Moi, cette âme-là, je l'ai suivie pendant un an, quoi. Après, des gens seraient peut-être plus. Après, il y a des mentors qui sont plus loin, où vous voyez leur vie de loin, vous ne les connaissez pas personnellement, mais vous pouvez apprendre d'eux par leurs livres, etc. Enfin, voilà, il y a plein de choses, mais c'est important d'avoir aussi ces gens qui peuvent vous aider. Et bien sûr, après, il faut les gens du quotidien, ou des amis proches qui sont là, qui voient aussi votre vie plus souvent. Et encore une fois, je reviens à mon exemple de tout à l'heure, qui peuvent dire, attention là, t'es un peu proche de la falaise, tu joues un peu avec le feu, tu risques d'y perdre des plumes. Et voilà, et ces gens-là, pas qui disent, oui, c'est bien, vas-y, fonce, t'es génial, t'es le meilleur, c'est super, c'est top. Alors on a besoin de ces encouragements-là, hein, mais pas des gens qui vont nous dire ça à chaque fois qu'on a une décision à prendre. Sinon, on va tourner en rond. Donc voilà, donc ça, je pense, c'est important. D'avoir ces gens-là à nos côtés pour nous faire grandir, pour nous tirer vers le haut. C'est toujours difficile hein, de prêcher parce qu'on répète des choses que certains d'entre vous ont déjà entendues, que vous connaissez déjà. Mais voilà, j'espère que le Seigneur peut vous parler sur des choses qui aujourd'hui vous rappeler des choses que vous avez déjà entendues, ça peut faire référence à des choses que vous avez déjà entendues et que ça vous parle, que ça vous encourage, que vous soyez renouvelés aussi. Voilà, j'ai rien inventé, mais voilà, c'est vraiment ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur. Et donc du coup, si je reviens à mon titre de début, hein, j'avais mis saisir la quintessence de la vie. Si vous prenez simplement le fait que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », la quintessence de la vie, c'est Jésus. Et donc, si on se saisit de Jésus, on saisit l'essence de l'importance de ce qu'il y a dans notre vie. Donc, je vais terminer avec ce verset, dans Romains 12, verset 1. Compassion de Dieu. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, je te remercie pour... ce temps qu'on a pu avoir dans ta parole. Et Seigneur, je prie vraiment pour que ce soit ta parole et ta parole seule qui reste gravée dans les cœurs. Seigneur, que tu puisses effacer peut-être les choses qui n'étaient pas forcément correctes, je ne sais pas, Seigneur, mais en tout cas, que ce qui venait de toi, Seigneur, que puisse, ça, pour chacun, ce sera différent, que ça puisse vraiment être une bénédiction pour cette semaine, que ce soit quelque chose qui puisse les accompagner pour chaque jour de la semaine, Seigneur. Afin que chacun puisse continuer à grandir dans l'intimité avec toi. Merci Seigneur de ce que tu as. Ouais, tu es fidèle et tu es là dans toutes les choses, dans toutes les situations. Qu'on puisse vraiment pouvoir mettre en pratique dans nos vies les choses que tu veux que nous vivions, que nous puissions développer le potentiel que tu as mis en nous, Seigneur. Et vraiment, comme le dit ce verset, Seigneur, que tu renouvelles notre intelligence afin qu'on puisse voir clairement, Seigneur. Alors que tu renouvelles notre intelligence, c'est comme si le brouillard se levait et qu'on pouvait voir les panneaux de direction, Seigneur. Et je prie pour chacun que cette semaine de rentrée, de continuité de la rentrée, soit une semaine où tu puisses, Seigneur, montrer, que tu puisses diriger, que tu puisses accompagner. Pour que ce soit vraiment une semaine comme un bon démarrage. Parfois, ce n'est pas très agréable quand on fait un faux départ dans une course, mais que ce soit un démarrage qui commence bien, Seigneur, avec toi, ancré en toi. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu me donnes aussi de pouvoir avoir été ton messager ce matin. Et je me remets vraiment en toi et tout ce qui a été dit encore une fois. Merci, Jésus. Amen. Soyez bénis.